Psaume 124, vous avez trouvé ? Psaume 124, c'est un cantique de David. Sans l'Éternel, qui nous protégea ? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégea ? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je reviens sur cette dernière expression du verset 8, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel ». Alors, il me semble que David avait bien compris qu'il avait un avantage sur ses ennemis. Et son avantage, je ne suis pas aussi beau qu'elle, d'accord, mais ne perdez pas attention. Son avantage à David, c'est d'invoquer l'Éternel. On voit bien que quand il est face à des ennemis et qu'il est bien difficile de résister à leur pression, à toutes ces difficultés qu'ils peuvent l'affronter, lui, il va trouver derrière ce nom-là, le nom de l'Éternel, il va trouver la grâce de Dieu, il va trouver toute l'autorité du Créateur, il va trouver toutes les promesses d'un sauveur exceptionnel, il va trouver tout le secours du Père. Dieu est un Dieu secourable, Dieu est un Dieu qui sait s'occuper de nous d'une façon magistrale. Alors, j'aime bien quand même comment ce psaume commence. « Sans l'Éternel, qui nous protégea ?» Et il invite le peuple qu'Israël le dise. « Ne le taisez pas, proclamez-le, dites-le, parlez-en autour de vous. Sans l'Éternel, qui vous gardera ? Sans l'Éternel, qui s'occupera de vous ? Si ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose pour vous, qui le fera ?» Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a bien des personnes qui s'imaginent qu'en remontant, en retroussant les manches, en se retroussant les manches, elles vont y arriver. Bon courage. Ça marchera dans certaines situations, peut-être pas dans toutes. La vérité, c'est que l'Éternel a toujours été là au bon moment. C'est ce que dit ce texte. Sans l'Éternel, qui nous protégea ? Qui nous protégerait ? Qui s'occuperait de nous ? Des hommes se sont élevés contre nous et on pourrait parler de l'ennemi ultime, notre ennemi à chacun d'entre nous, l'ennemi de nos âmes, le diable, l'ennemi redoutable. Il se lèvera contre nous, il va s'enflammer, sa colère va s'enflammer contre nous. Mais si l'Éternel nous protège, si nous avons en l'Éternel du secours, alors il est vrai que nous pourrons proclamer que le secours fut dans le nom de l'Éternel. Nous l'avons proclamé, nous l'avons annoncé ce nom-là, et ceci a été suffisant. Vous savez que Dieu a éduqué l'homme quant à sa relation avec lui. C'était pas intuitif. Quand Adam et Ève sont nés, ont été mis sur la terre, ont été créés, et que le souffle de vie les a habités, et que la vie est venue en eux. Vous comprenez bien que le fait de se tourner vers Dieu n'était pas quelque chose de naturel. Il a fallu que Dieu impose cette relation. Et tous les jours, Dieu venait dans le jardin et discutait avec Adam et Ève. C'était pas naturel, c'était surnaturel, c'était divin. Il a fallu que Dieu installe cette relation. Et puis ensuite, quand des enfants leur sont nés, et quand leurs enfants se sont eux-mêmes mariés, ont eu des enfants, c'était pas inné cette relation-là, il a fallu l'entretenir. Et dans le livre de la Genèse, on trouve même Abraham, pour ne parler que de lui, au chapitre 21, qui rappellera cette grande vérité aussi. Alors qu'il a déjà entendu Dieu lui parler, il a déjà vu Dieu faire quelque chose pour lui, et il nous est dit qu'Abraham va planter en un certain endroit à Beersheba des tamaris, et là, il va invoquer le nom de l'Éternel. Il y a un début à tout, hein. Il y a un début à tout. Certains pensent que c'est difficile de prier, c'est difficile d'invoquer Dieu, c'est difficile d'élever sa voix vers Dieu. Ben, il y a un début à tout, hein. Il faut commencer. Et si vous commencez, vous verrez que ce n'est pas si difficile que cela et que Dieu saura vous accompagner. Parce que si on ne le fait pas régulièrement, cette habitude, entre guillemets, elle va se perdre. Vous verrez, elle va se perdre. Vous ne la conserverez pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans le passé. Alors, si d'autres l'ont vécu, je ne vois pas comment vous pourriez échapper à cela. Dans le livre de l'Exode, quand Dieu va choisir Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël qui est en Égypte, il va s'adresser particulièrement à Moïse en lui disant ceci : « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. » C'est la question de Moïse. Mais lorsque j'irai devant Pharaon et que je lui dirai que Dieu m'a parlé, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que je dois dire ? Tu répondras, je suis celui qui suis, l'Éternel, qui n'est pas dans le passé, qui n'est pas que dans l'avenir, qui vit, qui existe, qui demeure, qui est toujours là. Et ça, c'est une nouveauté finalement pour ce peuple-là, comprendre que Dieu pouvait s'occuper d'eux à chaque instant. Je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Ça nous pose une question évidemment intéressante, et dans un psaume, c'est expliqué cela dans le psaume 45, les serviteurs de Dieu, en l'occurrence ces fameux fils de Corée qui composaient des cantiques, qui servaient l'Éternel, ils avaient pour tâche de rappeler le nom de l'Éternel en tout temps. Psaume 45 et verset 18, « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. » Alors notre rôle à chacun d'entre nous, et c'est ce que l'on a fait ce matin, c'est de rappeler la fidélité de Dieu, n'est-ce pas ? Ah, quand même. Vous êtes venus pour cela, non ? Si vous n'êtes pas venus pour cela, on recommence le culte du début. Vous êtes venus pour cela, pour célébrer la fidélité de Dieu. Quelque part, vous rappelez ce que signifie le nom de l'Éternel. Ce n'est pas un nom vain, ce n'est pas un nom qui n'ait d'autre connotation que de s'adresser à Dieu. Il y a derrière ce nom-là tellement de grâce, tellement de belles choses. Jésus-Christ d'ailleurs, et tout cela est rappelé dans les évangiles, est venu pour glorifier le Père. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et il parlera de la croix, il rappellera que bientôt il livrera sa vie. Alors, oui, on peut dire qu'à la croix du calvaire, le nom de l'Éternel a vraiment été élevé, comme Jésus a été élevé entre ciel et terre, à la croix, le nom de l'Éternel, tel qu'on le décrit comme sauveur, le nom de l'Éternel a pris son sens. Et quand Jésus ressuscite d'entre les morts, on pourra dire que l'Éternel a triomphé, la mort ne l'a pas tenu captif, il a réellement triomphé. Alors aujourd'hui, je souhaiterais, et j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions glorifier le nom de l'Éternel, célébrer le nom de l'Éternel, louer le nom de l'Éternel et comprendre que derrière ce nom-là, nous avons tout, absolument tout, pleinement. C'est l'apôtre Paul qui disait cela, que personne, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et rendez-vous compte, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Dans ce nom-là, vous avez tout. À l'évocation de ce nom, vous avez tout. Lorsque vous parlez de ce nom extraordinaire, vous avez tout. Alors le nom de Dieu, en quelque sorte, on peut dire qu'il devrait accompagner toutes les étapes et toutes les expériences de notre vie, à chaque moment de notre vie, à chaque circonstance de notre vie. Ce nom devrait nous accompagner. Il me semble qu'il doit répondre parfaitement à toutes nos attentes et que ce nom-là doit donner du sens à toutes les expériences ou alors les épreuves. On va mettre dans les expériences les bonnes et les moins bonnes, toutes les expériences que l'on vit devrait donner du sens et devrait trouver raison derrière ce nom, ce que nous portons, le nom de Christ, le nom de chrétien, le nom d'enfant de Dieu. Je crois qu'il devrait nous accompagner, ce nom-là, jusque dans la gloire. Alors, on va faire un petit peu un survol de ces quelques noms Et il y en a quelques-uns que l'on trouve dans la Bible associés à ce nom de l'Éternel, à ce nom Yahvé, avec un qualificatif. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça. On en a dénombré, selon la liste, entre 7 et 9. Alors, je ne les ai pas tous gardés, j'en ai gardé juste quelques-uns. Alors, normalement, si vous regardez une Bible traduction assez littérale, à chaque fois que se trouve le nom Yahvé, que l'on ne prononçait pas d'ailleurs, les Juifs ne le prononçaient pas, il a souvent été remplacé au-dessus par le nom Seigneur, Adonai. Alors voilà, je me suis permis de faire ce changement, Adonai, Jireh, Yahvé, Jireh, et ainsi de suite sur ces quelques noms. Et on va voir en quelles circonstances des hommes ont donné à l'Éternel ce qualificatif, parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une raison très précise. Alors, on va aller dans la Genèse, si vous avez vos Bibles. Dans la Genèse, au chapitre 22, je vous rappelle que c'est au chapitre 21 qu'Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est à ce moment-là, mais on continue. Et on s'aperçoit qu'au chapitre 22, Abraham lui-même va devoir vivre une drôle d'expérience. On ne va pas tout lire, mais juste quelques versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » On arrête là la lecture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous est dit que déjà Abraham a vécu un parcours un petit peu spécial parce que de l'endroit où il vivait, Mésopotamie, l'Irak actuel, Dieu lui a fait faire un très long voyage pour arriver finalement du côté de la Palestine, ce qu'on connaît de la Palestine aujourd'hui. Et quand il arrive par cet endroit-là, il reconnaît la fidélité de Dieu. Dieu a veillé sur lui. Dieu lui a permis d'avoir des enfants. Il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés. Mais voilà qu'il se retrouve avec son fils, celui de son épouse Sarah, celui qu'il a eu avec son épouse Sarah. Et son fils, il est précisé que c'était son unique. Il avait eu Ismaël, mais finalement il l'avait eu avec une servante et non pas avec son épouse Sarah. Et quand il se retrouve à ce moment-là, il ne lui reste que ce fils avec lui. Et voilà que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Il faut prendre les choses littéralement. Ça paraît inconcevable, évidemment. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, « Tu as un magnifique garçon à tes côtés. Je veux qu'il meure aujourd'hui. Je veux que tu me l'offres en sacrifice. » Je ne sais pas comment peut-on réagir à une telle demande, mais on peut imaginer la situation, on peut comprendre que la vie avec Dieu, quelquefois, semble, et je dis bien semble, faite de paradoxes. Parce que même dans la phrase, quand Dieu s'adresse à Abraham et quand Dieu lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes », c'est un non-sens. Si tu l'aimes, tu ne vas pas le donner. Si tu l'aimes, tu vas le garder. Si tu l'aimes, si c'est ton unique, tu vas certainement pas, tu vas mourir à sa place, tu vas donner ta vie pour lui, mais tu vas pas le sacrifier, c'est pas possible. Donc, ça semble paradoxal, ça semble ne pas marcher ensemble, ces choses-là, mais on s'aperçoit que Abraham, qui aimait Isaac, d'ailleurs, vous noterez que c'est la première mention du verbe « aimer » dans la Bible, la première fois que ce verbe apparaît ainsi. Donc, on met l'accent là-dessus et il doit le sacrifier. Comment faut-il comprendre cela ? C'est Dieu qui le lui demande, il aime Dieu, il a offert à Dieu des sacrifices par le passé, il a invoqué le nom de l'Éternel, il a eu l'occasion de célébrer ce Dieu de l'éternité, il a eu l'occasion de lui dire combien il l'aimait, et le voilà devant un choix. Qui aime-t-il le plus ? Le même choix que nous sommes appelés à faire tous les matins en nous levant. Qui est-ce que j'aime le plus ? Dieu ou moi ? Dieu ou mon conjoint ? Dieu ou mes enfants ? Dieu ou mes parents ? Dieu ou ceci ou cela ? Bref, on peut décliner à l'infini. Qui est-ce que j'aime le plus ? Tous les matins, quand je me réveille, c'est ce qui semble finalement la question essentielle, certainement la plus importante. Abraham va réagir d'une façon très étonnante. Il nous est dit qu'Abraham ne discute pas ce que Dieu lui dit. Manifestement, en tous les cas, le rapport ne nous en est pas fait. Mais il va se lever de bon matin, il va seller son âne, il va prendre avec lui deux serviteurs, son fils Isaac, il va prendre le bois pour préparer le feu pour l'Holocauste, et il va partir pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il s'en va, discute pas, et tout au long de la route, on imagine ce qui a dû passer par sa tête, évidemment. Ça a dû être tempête dans un crâne, hein, sous un crâne, forcément, ça a dû être compliqué. Et le fait est qu'il s'en va en direction de la montagne. Ce mont s'appellera d'ailleurs le mont Morija. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, et si vous allez vers la cité de David, vers ce qui n'est pas très loin de connu pour être le temple, c'est le mont Morija. C'est à cet endroit-là que la ville s'est bâtie par la suite. À cet endroit-là, il faudra sacrifier ton enfant. Alors il s'en va et il va laisser ses serviteurs plus en retrait. Il grimpe la colline juste avec son fils qui, pas bête, pose la question à son père. On a le couteau, on a les liens, on a le feu, on a le bois, mais il nous manque l'animal. Pourquoi on n'a pas l'animal? Comment est-ce qu'on va faire? Et la remarque d'Abraham est essentielle. À partir de ce moment-là, il entre dans une dimension de foi. Il croit à la résurrection. Il croit que Dieu est le Dieu de l'éternité. Il l'avait dit. Il était noté qu'à Beersheba, il a invoqué le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. C'est quelqu'un, l'éternité finalement, ça nous introduit au-delà de la mort. Hein. L'éternité, ça veut dire que la mort ne peut pas avoir d'impact sur quelqu'un qui vit éternellement. Il ne mourra pas, il vivra éternellement. Et quand Abraham entend cela de la part de son fils, il a comme simple phrase, une phrase humainement parlant qui n'a pas de connexion, qui n'a pas de sens, et il dira, écoute, Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Et quand il se trouve tout en haut, voici ce qu'il est dit. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham », et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ». Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions tous les jours invoquer Adonai Jireh dans notre vie de tous les jours. L'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui est toujours là au bon moment, l'Éternel qui quelquefois a testé notre foi, a éprouvé notre foi. Quelque part, il teste également notre espérance. Quelle est donc ton espérance, Abraham? Crois-tu que même si ton fils meurt, il pourrait revivre? L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il le retrouva par une sorte de résurrection. Crois-tu qu'il soit possible que cet enfant vive? Et quel est ton amour pour les hommes? Quel est ton amour pour ta famille? Quel est ton amour pour moi? Ça a été terrible, ce test-là, et la réponse, c'est ce bélier pris par les cornes dans un buisson. Ça, c'est la réponse de Dieu à Abraham. Jésus sera toujours notre réponse, parce qu'à la croix du calvaire, tout a été payé. Frères et sœurs, tout a été payé. Alors on n'a pas à se poser la question, est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins? Il y a déjà pourvu. Tout a été fait à la croix. Il me suffit de rester attaché à cette réalité-là. Souvenez-vous ce que Paul disait aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, et en plus avec gloire. » Voilà ce qu'il est dit, alors que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir compter sur lui. On va un petit peu plus loin et on arrive après cette expérience que le peuple d'Israël fera en quittant l'Égypte. Ils vont s'enfiler dans un désert et ils vont être coincés par la mer rouge, et Dieu va ouvrir la mer et ils vont traverser la mer et ils vont se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire en lieu sûr. Ce lieu sûr n'est qu'un désert. Mais l'Égypte et l'ennemi est derrière eux et une mer les sépare, donc ils sont totalement inatteignables. L'ennemi a été englouti par les eaux, c'est tout ce qu'il nous est dit dans la première partie du chapitre 15 de l'Exode, le fameux cantique qui va être chanté par les enfants d'Israël. Maintenant, on arrive un petit peu plus loin. Ils vont devoir rester un moment dans le désert. Et dans le désert, ben, il fait chaud, on n'a pas toujours à boire, c'est-à-dire qu'on languit. Il y a un moment où c'est difficile et où on a besoin d'être rassuré, d'être encouragé. N'oubliez pas que ce peuple ne connaissait pas réellement Dieu. C'est ce qu'on avait lu au chapitre 6, « Ce peuple ne me connaît pas véritablement ». Je ne me suis jamais révélé à eux sous mon nom, ni du temps d'Abraham, bien qu'il y ait eu quelques aspects, et encore moins pour ce peuple esclave depuis des centaines d'années en Égypte. Et il nous est dit, Exode chapitre 15, verset 26, c'est l'exhortation de Dieu au peuple, et c'est l'exhortation que Dieu nous fait ce matin. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et l'expression qui est utilisée à ce moment-là, c'est Adonai Rapha Raphé, selon comment vous le prononcez. Ce peuple, finalement, ne connaissait pas réellement Dieu. Il venait de découvrir la puissance de Dieu. Dieu était capable d'ouvrir la mer. Dieu était capable de refermer la mer. Dieu était capable de mettre, avant qu'il ne traverse la mer Rouge, une espèce de voile ténébreux, une nuée comme un brouillard pour éviter que l'ennemi n'arrive trop rapidement sur eux. Bref, il les a protégés de différentes manières. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu l'autorité de Dieu sur les rois et sur la nature. Mais Dieu cherche à établir une vraie relation avec eux. Si je ne connais de Dieu que ce qui est écrit dans les livres, ça ne suffira pas à rassurer mon cœur. Si je ne connais de Dieu que ce que l'on m'a enseigné lorsque j'étais un enfant, ça ne suffit pas à rassurer mon cœur au quotidien. Il faut avoir une vraie relation avec Dieu. Si je n'ai pas une vraie relation avec Dieu, il me manque une grosse partie de ce qui est essentiel, évidemment, dans ma connaissance de Dieu. Ce peuple, j'en prends un témoin, ce peuple, ils passent des larmes au rire, du rire aux larmes. Ils sont esclaves, ils pleurent, ils sont délivrés, ils chantent un cantique, ils arrivent dans le désert, ils pleurent à nouveau. On n'a rien à boire, on a faim, on a soif, on va mourir, on aurait mieux fait de rester esclaves en Égypte. Jamais contents, jamais satisfaits. Ils passent finalement du rire aux larmes, de la joie à la plainte, et ça ne va pas, ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas vivre votre relation avec Dieu en disant « aujourd'hui je vais bien, demain je n'irai pas bien » et c'est comme ça, la vie est faite ainsi. Non, ce n'est pas possible. En tous les cas, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'on va être un petit peu comme les indestructibles. Plus rien nous touche, plus rien nous atteint, non. Mais ça veut dire que derrière ces moments les plus difficiles de notre vie, nous avons une relation avec ce Adonai Rapha, cet éternel qui guérit tout, guérit physiquement, mais il guérit moralement, il guérit intérieurement, il guérit dans le secret de l'âme, il peut tout faire. Mais si je n'ai pas de relation avec ce Dieu-là, eh bien finalement, je vais me retrouver drôlement embêté, hein, drôlement embêté. Ils apprendront que l'obéissance est source de vie. Si tu obéis à mes commandements, si tu acceptes ces commandements, si tu prêtes l'oreille à ma voix, si tu écoutes ce que je dis, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, alors je serai l'Éternel qui te guérit. Amen. Je serai l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, on n'aime pas Dieu parce que ça va bien. On aime Dieu parce qu'il en est digne. On n'aime pas Dieu parce que ça va bien. On aime Dieu parce qu'il en est digne. Alors, je crois que Dieu peut changer les circonstances. Vous croyez que Dieu peut changer les circonstances? Mais moi, je crois que Dieu veut vous changer, vous, d'abord. Même s'il ne change pas les circonstances. Parce qu'évidemment, on veut tous que les circonstances soient changées. Mais même dans les meilleures circonstances, quelquefois, on a été exécrable. Donc ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas que demain, tout soit rose ou bleu autour de nous. Ce qui doit changer, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur de notre cœur. Je vous cite, juste pour vous encourager, ce qu'il est dit dans cette lettre aux Philippiens, encore aux Philippiens, au chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler, l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Et écoutez donc, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Si Adonai Rapha habite en vous, vous pourrez tout par celui qui vous fortifie. Bien-aimé, oui, Dieu peut changer les circonstances, mais je pense qu'il préférera vous changer, vous. On va aller un peu plus loin dans le livre des Juges. On rencontre un homme. Il est intéressant, cet homme-là, parce que c'est un exemple. C'est un exemple assez réel de ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Et pour parler de la grâce, Gédéon, c'est intéressant. Au chapitre 6... il nous est dit ceci au verset 24 du livre des Juges. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Adonai Shalom. L'Éternel ma paix. L'Éternel est la paix. L'Éternel est le Dieu de paix. Vous relirez, si ça vous intéresse, vous relirez la vie de cet homme Gédéon. Gédéon est très particulier parce que Gédéon, c'est quelqu'un qui, pour vous faire ça assez court, c'est quelqu'un d'apeuré, de frustré, de fuyant, de râleur et d'incrédule. Bref, c'est un miroir de nous-mêmes. Ça ne devrait pas. Hein. Mais voilà comment est Gédéon. Quand Dieu vient le trouver, il n'a que des plaintes à faire monter vers Dieu, que des plaintes. Et quand il va être encouragé quand même à relever la tête, à ne pas se laisser prendre par le découragement, il a beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il ne cessera de demander des signes à Dieu, et Dieu va lui donner des signes. C'est incroyable d'ailleurs. Je me souviens de quelqu'un qui avait pris cet exemple pour dire « C'est vrai que Dieu m'a parlé, mais je voudrais qu'il fasse comme Gédéon, qu'il me parle encore, et qu'il me parle encore, et qu'il me parle encore. » C'est pas une qualité de l'utiliser, Gédéon, dans ce cas-là. Non, non, vous mettez en avant votre incrédulité, c'est pas forcément bien. Hein. Et c'est pas parce que ça a marché avec Gédéon que Dieu va prendre plaisir à ceux qui ne croient jamais, qui doutent toujours et qui ne cessent de demander des signes. C'est un cas particulier, ce Gédéon, c'est un homme sans force, sans courage, sans vision. Oh, que Dieu nous garde d'être comme ça, sans courage, sans force et sans vision. Parce que vous savez quoi? Ça nous guette quelquefois. Non? Ça nous guette quelquefois. Hein? Perdre courage. Je suis le seul, le plus petit dans ma famille. Les ennemis ne sont en surnombre contre nous. On ne s'en sort jamais. Dès qu'on essaie de mettre à l'abri un peu de nos biens, nos ennemis arrivent, ils ravagent le pays, ils prennent tout, ils ne nous laissent rien. Et ça fait des années que ça dure. Il n'y a plus rien qui va changer. Pauvre Gédéon, pauvre Gédéon. Il a besoin d'aller dans un cercle des dépressifs chroniques, hein, pour un cercle de parole, pour essayer de libérer un peu sa parole. Le pauvre, il va pas bien, hein, il va pas bien. Mais pourquoi est-ce qu'il va pas bien? À cause de ce qui se passe, mais à cause de lui aussi. Parce qu'il a oublié que Dieu était un Dieu de paix, manifestement. D'ailleurs, une des premières remarques qu'il fait monter vers Dieu, vers l'ange qui s'est approché de lui, il lui dira ceci, « Ah, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? On nous a bien parlé de miracles, mais ça, c'était avant. Nous, on ne voit rien. » Il a limité son Dieu. Il a limité ce Dieu qui s'était révélé dans le passé. « Dites-moi la paix, est-ce que ce n'est pas souvent la plus belle expérience qu'on puisse faire, la paix ? Dites-moi, est-ce que ce n'est pas l'expérience la plus extraordinaire ? quand on est au cœur de la tempête, quand ça ne va pas, quand on ne voit rien venir, quand on se dit qu'il n'y a pas vraiment de solution. Est-ce que la paix n'est pas la chose la plus importante qui pourrait nous atteindre et nous bénir? Alors Dieu va travailler corps à corps avec Gédéon et il va remporter la victoire. Et Gédéon va être quasiment persuadé. Et ainsi, il va vouloir offrir à ce Dieu qui vient de se révéler à lui un sacrifice. Et en plaçant là un espèce de monument, un autel, si vous voulez, et pour qu'on s'en souvienne, il dira à cet endroit-là, c'est Adonai Shalom qui s'est révélé à moi. C'est le Dieu de paix qui s'est révélé à moi. Plaise à Dieu que tous les matins, vous puissiez vous retrouver devant cet autel-là, devant ce monument-là. Aujourd'hui, l'Éternel sera ma paix. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel m'accompagnera. Aujourd'hui, l'Éternel répondra à mes questions, à mes attentes. Je vous citais Philippiens. Je pourrais continuer la lecture, d'ailleurs, parce qu'il était dit ceci, dans ce même chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et entendez ceci, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je dis gloire à Dieu. Amen. Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en lui si nous lui faisons confiance. Alors, où est l'éternelle paix, mon frère, ma sœur ? Dans ton environnement, dans ta vie. Est-il près de toi ou est-il malheureusement si loin? Et puis un autre qualificatif que l'on trouve est situé dans le psaume 23. C'est assez commun pour, assez particulier pardon, pour le noter. C'est le début du psaume 23. Dans le texte original, on trouve cette expression « L'Éternel est mon berger, l'Éternel berger » Adonai Roi. Vous ne le trouverez pas dans vos traductions classiques, mais quand on va vers l'original du texte, on le trouve. Vous connaissez le psaume 23 ? Ben oui, ben tout le monde ne le connaît pas, Mireille, quand même. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va le relire. Voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, l'Éternel berger, Adonai Roi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est celui qui veut te guider. L'Éternel est celui qui veut te conduire. L'Éternel est devant le troupeau, il est derrière le troupeau, il est à gauche, il est à droite, il est de tous côtés. Et quand je lis ce passage, je comprends que le berger a décidé de faire la transhumance. Il faut prendre les bêtes, les prendre de la bergerie et les monter dans les alpages. Alors il faut prendre le chemin, et il a vu le chemin à l'avance, il sait par quel sentier il va les faire passer, il connaît la route, il a un bâton au cas où un loup viendrait, il a une houlette pour ramener dans le droit chemin la brebis qui va un petit peu s'écarter, et puis finalement il trace sa route, mais son objectif c'est quoi? C'est les lieux plus élevés, là où il y a de l'herbe verte, là où il y a de quoi boire, là où le troupeau va se reposer. Là où le troupeau sera bien. Frères et sœurs, notre destination, c'est le ciel. Amen. Tout sera bien là-haut, hein. Tout sera bien. L'Éternel Dieu sera notre lumière. Tout sera parfait. Mais en attendant, on chemine. Et il faut reconnaître qu'en cheminant, quelquefois, on a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Quelquefois, on a eu l'impression que c'était difficile, on a eu à se frotter à quelques personnes grincheuses, pas agréables, et il a fallu panser nos plaies, un peu d'huile sur notre tête, ça nous a fait du bien. Bref, il a fallu aller d'un endroit ici pour aller jusque là-bas. Mais bien aimé, n'oubliez jamais que les plans de Dieu sont bons. Les plans de Dieu pour notre vie sont bons. Et l'arrivée, c'est toujours un lieu qui est si bon. Des pâturages verts, tout ce qui est parfait. Hors de portée de l'ennemi, il a dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Alors la brebis, c'est une particularité de la brebis. Elle ne peut pas survivre, et elle ne peut survivre que grâce à la présence du berger, finalement. Parce que la brebis, ce qu'elle ne sait pas faire, c'est se défendre toute seule, parce qu'elle n'a pas d'armes. Vous avez des animaux qui ont des cornes, bon, qui peuvent se défendre. La brebis, elle ne peut pas. Donc si un prédateur vient, elle est vulnérable. Et puis elle a un deuxième défaut, c'est qu'elle ne sait pas s'orienter. C'est-à-dire qu'elle va se perdre très facilement. Mouton de Panurge, on va suivre le dernier qui file dans le coin, allez hop, on va le suivre. Ça, c'est un défaut que la brebis, ce sont deux défauts de la brebis. Pas capable de se défendre, elle n'a pas d'armes, elle n'est pas armée pour cela, et difficile pour elle de trouver le chemin, de s'orienter. Par contre, ce qu'elle sait très bien faire, la brebis, c'est de suivre le berger. Et ça, c'est ce que nous, on a le plus de mal à faire. Curieux, hein ? Pourtant, on est une brebis, brebis du Seigneur. C'est que nous, on est à ce point têtu, mais à la différence de la brebis, qui se sait dépendante, nous, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on s'en sortira très bien tout seul. Mais la brebis sait que sans le berger, elle est cuite, s'en sortira pas. Il faut qu'elle reste dans le troupeau, et il faut qu'elle se laisse guider par la voie. C'est pas pour rien que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Vous comprenez ? C'est bien pour ça qu'il l'a dit. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent, parce que c'est le bon berger. Elles ne suivront pas un mercenaire, elles ne suivront pas un ennemi, certainement pas. Mais elles suivront le bon berger. Alors, est-ce qu'il ne nous faut pas suivre en toute confiance, sans jamais douter, ni nous inquiéter, le chemin par lequel Dieu nous fait passer ? Parce que votre Dieu, c'est votre berger. Ouais. Il prend soin de vous, il sait s'occuper de vous. J'ai un ami qui, lorsqu'il avait 8-10 ans, gardait les moutons, gardait les troupeaux, et il gardait ça, pareil, dans les alpages, il était tout enfant, hein. Et il me disait, j'étais terrorisé quand il y avait des orages, terrorisé. Ça claquait de partout, c'était effrayant, ça remonte à une quarantaine d'années. Sauf qu'il me disait, je n'avais pas le droit de partir. J'étais obligé de rester là. On m'avait confié le troupeau, je ne pouvais pas partir. Et si un enfant de 10 ans dit ça, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux s'occupera-t-il de vous et ne vous abandonnera pas ? Alors, bien-aimés, souvenez-vous de cela, l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien, effectivement, en comptant sur lui. Et j'arrive au dernier point et à ma conclusion. Adonai Shammah, l'Éternel est ici. Et c'est une expression que l'on trouve à la fin du livre d'Ézéchiel, dernier verset, dernier chapitre du livre d'Ézéchiel. Au chapitre précédent, il y a un renouvellement dans la vision d'Ézéchiel. Il se rend compte que Jérusalem va être reconstruite, mais d'une manière spirituelle. Et au ciel, il y aura la Jérusalem céleste. Et à l'intérieur de cette Jérusalem céleste, celui qui présidera, celui qui trônera, celui qui régnera, ce sera Dieu lui-même. L'Éternel sera là. L'Éternel sera dans cette Jérusalem céleste. Et c'est ainsi que se termine le livre d'Ézéchiel. Adonai Shammah, c'est le nouveau nom qui était donné à cette ville, le nouveau nom qui sera donné à cette ville de Jérusalem. Le lieu où résidera le Seigneur. Je ne peux pas terminer sans vous dire que être, vivre, et profiter de la présence de Dieu. C'est la chose la plus précieuse. Ça doit être et demeurer la chose la plus précieuse pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit cela, hein, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Alors, être là où Dieu est devrait être notre objectif. Dans un psaume, le 17, il est dit ceci, tous les matins, je me rassasirai de ton image à mon réveil, ô Éternel. Alors que Dieu fasse que tous les matins nous puissions nous rassasier à son image, à contempler son image, à être en sa présence. Alors Dieu a pourvu à votre salut et il pourvoira à vos besoins, parce que ça va ensemble, Adonai Jireh. Dieu vous guérit encore aujourd'hui, parce qu'il est l'Éternel qui guérit, l'Éternel. Ce n'était pas pour hier, ce n'est pas que pour demain, c'est maintenant l'Éternel qui guérit. Restez dans la paix, parce que c'est l'Éternel Shalom qui habite votre âme. Et laissez-le vous conduire, laissez-le vous guider. Cherchez constamment sa présence, parce qu'il est Rohi et Shama à la fois. Il est celui dont nous avons besoin. Voilà pourquoi je voulais conclure en disant que le nom de l'Éternel, il me semble que ça signifie le secours parfait. Dans ce psaume, souvenez-vous, 124, le secours, notre secours, est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimé, votre secours sera toujours à l'invocation de ce nom. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous, tout à côté. La Bible dit « invoquez-le ». Alors, plaise à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, vous le trouviez autrement, différemment, d'une manière plus profonde et réelle. Et si vous avez déjà une bonne communion avec Dieu, gloire à Dieu pour cela. Gardez-la, entretenez-la et maintenez-la, cette communion avec lui. Amen. On se lève ensemble. Gloire à Dieu. Derrière ce nom, il y a toute l'autorité du Créateur. Derrière ce nom, il y a toutes les promesses de votre Sauveur. Et derrière ce nom, il y a tout le secours du Père. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons sanctifier ton nom encore. Et nous voulons te rendre grâce parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Je veux te remercier pour ta fidélité, je veux te remercier pour ta bienveillance, je veux te remercier pour ton secours, je veux te remercier pour ta grâce, je veux te remercier pour ta présence, je veux te remercier pour ta force et ta puissance. Et je veux te remercier pour l'anticipation. Tu sais très bien ce qui va nous arriver demain et tu as déjà préparé tout ce qu'il nous fallait pour que le chemin soit balisé et aplani. Merci de ta fidélité. Je veux invoquer le nom de l'Éternel encore aujourd'hui en disant « Tu es l'Éternel, mon secours. Tu es l'Éternel, ma paix. Tu es l'Éternel qui me soutient, me guérit, me relève. Tu es celui qui est tout pour moi. Je te rends grâce et je te bénis. » Merci pour ta fidélité, garde-nous, raccompagne-nous, fais-nous du bien, bénis la réunion tout à l'heure à 15h, que dans ce lieu on puisse célébrer encore ta gloire et que le nom de l'Éternel triomphe dans des âmes et dans des vies. À toi l'honneur et la louange, Seigneur. Amen.